Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous.
Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. C'est Gilles au micro et aujourd'hui, pour la première émission de l'année, je vous propose d'entendre des femmes parler de leurs conditions. Car outre la galanterie qui n'est pas une faiblesse, mais du sens commun, des questions se posent encore sur l'égalité des droits, l'égalité des salaires, l'égalité de traitement, la parité. Sans parler, bien sûr, de la violence conjugale ou sociale, physique ou symbolique faite aux femmes. Cette première émission sera donc consacrée aux femmes, une façon de les fêter et surtout de les entendre dans le cadre des états généraux du mouvement des femmes qui se sont déroulés à l'appel du collectif pour les droits des femmes les 3 et 4 décembre 2011 à la Bourse départementale du travail. Les quelques interventions que vous allez entendre ce soir proviennent de l'atelier Femmes et précarité.
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Merci. Donc, Martine Billard, donc, je suis députée. Je siège à la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale et à la délégation droits des femmes. Et j'étais, avant d'être députée, j'étais déléguée du personnel en PME. Alors, par rapport au Code du travail, bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une volonté qui a été d'ailleurs exprimée dans un document très précis du MEDEF qui s'appelle les 44 mesures du MEDEF, où le MEDEF dressait ce qu'il voulait obtenir quant au Code du travail et qui, en fait, avec une revendication centrale du MEDEF, qui est de supprimer le Code du travail comme permettant des droits collectifs des salariés pour remplacer, en fait, par des droits qui relèveraient du Code civil et du contrat de gré à gré entre le salarié et l'employeur, c'est-à-dire revenir, en fait, tout début du salariat, avant, justement, que les luttes ouvrières permettent cette conquête de droits collectifs et cette existence de lois du travail qui permettent que de tendre, je ne veux pas dire que ce soit, on y soit arrivé, mais de tendre vers l'égalité des droits de tous les salariés. Donc ça, c'est le premier point qu'il ne faut jamais oublier parce que c'est vraiment l'objectif. Et donc, ils se sont donné les moyens depuis 2002 de tout faire pour casser, pierre après pierre, si on peut dire, les protections collectives des salariés. Alors, première casse qu'ils ont introduit jusqu'alors en droit français, vous aviez la loi qui était le minimum. Et ensuite, tout ce qui était au-dessus était forcément plus favorable. Donc vous aviez la loi, ensuite les accords interprofessionnels, ensuite les conventions de branche, ensuite les accords d'entreprise. Et à l'époque, on s'arrêtait là, d'ailleurs. Et tout ne pouvait être que plus favorable que le niveau précédent. Ça, ils l'ont cassé, donc en permettant que dorénavant, par exemple, les accords d'entreprise soient moins favorables que les accords de branche, ou que des accords d'établissement, puisqu'ils ont introduit la notion d'établissement, soient moins favorables qu'un accord d'entreprise ou qu'un accord de branche. Donc on reste toujours à l'heure actuelle avec la loi comme minimum, mais il n'y a pas forcément d'amélioration par rapport au texte de loi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Code du travail, donc ça c'est une spécificité française, hein, de regrouper toutes les lois correspondant à une thématique dans un code. Il y a d'autres pays qui ne fonctionnent pas comme ça. Hein. Bon, mais nous on fonctionne avec des codes, ça date de Napoléon. Dans le Code du travail, parce qu'il y a assez peu de choses. En général, le Code du travail renvoie justement aux conventions de branche. Ce qui fait que si vous êtes dans une branche où le rapport de force est très mauvais, finalement, vous avez très peu de droits. C'est par exemple le cas de tout ce qui est de nettoyage, hein, ou tout ce qui est des services à la personne, où il y a très peu de droits. Mais vous avez par exemple aussi une branche qui est celle qui est beaucoup utilisée dans l'informatique, où, bon, il y a plus de droits que dans le nettoyage, mais enfin, où c'est pas non plus pas très brillant. Donc, en fait, dans le droit du travail, il y a principalement le principe du SMIC, le montant étant défini par décret, le principe d'un temps de travail légal, applicable à tous, et le principe d'un contingent d'heures supplémentaires maximum. Et ensuite, vous avez ça renvoie aux accords qui peuvent être faits branche par branche. Donc le MEDEF à l'heure actuelle et l'UMP portent pour 2012 les revendications suivantes: c'est sortir le temps de travail du code du travail pour qu'il y ait des accords par branche ou par entreprise qui définissent le temps de travail. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, le temps de travail maximum qui s'appliquerait serait la directive européenne qui la fixe à 48 heures maximum le temps de travail hebdomadaire, à condition que la France ne demande pas, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'ici, ne demande pas à relever de ce qu'on appelle l'opt-out, qui permet en Angleterre de travailler jusqu'à 68 heures. 68. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la France a trouvé quand même le moyen de contourner cette obligation de 48 heures maximum. C'est tout simplement les forfaits jours. Les forfaits jours, c'est pas l'UMP qui les a inventés, c'est malheureusement le gouvernement de Jospin, avec la loi Aubry 2 de réduction du temps de travail, où, devant les hurlements du patronat, la loi Aubry 2 a introduit des compensations pour le patronat qui ont été l'annualisation du temps de travail. C'est-à-dire votre temps de travail n'est plus calculé ni sur la semaine ni sur le mois, mais il est calculé à l'année. Avec une fourchette, donc vous pouvez avoir par moment des semaines de 48 heures, et puis par d'autres moments des semaines avec moins d'heures. Bon. Et l'introduction de ce qu'ils ont appelé donc les forfaits, notamment le forfait jour, donc qui dans la loi Aubry 2 s'appliquait aux cadres supérieurs autonomes. Simplement, l'UMP, ce qu'elle a introduit de 2002 à maintenant, en grignotant, je ne vais pas vous faire toute la liste des lois qu'on modifiait, parce qu'ils l'ont fait à peu près quasiment une fois par an. Peu moins, mais bon, ils ont étendu le forfait jour à tous les salariés, à partir du moment où vous êtes autonome. Donc après, il faut définir qu'est-ce qu'est autonome. Mais par exemple, un salarié qui fait de la maintenance, il peut être considéré comme autonome. Donc son temps de travail n'est plus compté en heures, mais en jours. Et donc dans ce cas-là, la seule obligation, c'est d'avoir 11 heures de repos entre deux journées de travail et d'avoir une journée de repos. Donc si vous calculez, vous pouvez travailler jusqu'à 76 heures. Bon. Donc ça, alors, les syndicats ont attaqué au niveau de la CEDH. Bon, ils ont gagné, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de sanctions prévues. Donc, ce qui a été reconnu comme non conforme au texte européen, ce système de forfait jour, ainsi que le fait que les gouvernements UMP ont introduit le fait que les temps d'astreinte n'étaient plus comptés dans le temps de travail. Donc, par exemple, ça existe beaucoup... dans tout ce qui est maintenance, bon, vous êtes chez vous en astreinte pour s'il y a un problème que vous puissiez intervenir. Mais avant, il y avait des comptes assez compliqués. Dorénavant, de toute façon, si vous n'êtes pas appelé à intervenir, tout le temps d'astreinte où vous avez été coincé chez vous n'est plus compté dans votre temps de travail. Il n'y a même plus de compensation obligatoire. Donc ça a aussi été déclaré non conforme au texte européen. Mais le problème, c'est comme il n'y a pas de sanction, aujourd'hui, la France peut continuer à appliquer et le forfait jour et le nom des comptes du temps d'astreinte dans le temps de travail. Donc voilà un peu comment a fonctionné l'UMP, mais en fait, moi j'ai appelé ça un programme commun UMP-MEDEF, parce que c'est à partir des exigences du MEDEF que ça a été mis en place. Ensuite, deuxième point, donc ça c'est comment casser les protections collectives. Bon, le deuxième aspect, ça a été la casse du contrat à durée indéterminée, du contrat de travail à durée indéterminée. Bon, il a été cassé, ça avait déjà commencé avant, mais ça a pris une ampleur bien plus grande, et aujourd'hui, l'immense majorité des embauches ne se font plus en CDI. Non, c'est vraiment exceptionnel. La majorité des embauches se font en CDD, ou en intérim, ou sous des formes de contrats divers et variés, parce qu'ils ont inventé des tas de contrats, les contrats de chantier, les contrats de par objet, et ainsi de suite, qui permettent de ne plus être dans le CDI. Alors, attention, c'est les embauches. Aujourd'hui, la majorité des salariés sont encore en CDI, parce que des fois, il y a des polémiques là-dessus, parce qu'il faut le temps que ça change. Donc la majorité des contrats existants sont toujours en CDI, mais les embauches se font à 80% hors CDI à l'heure actuelle. Donc sur le temps de travail, je vous ai donné quelques exemples pour comment ils grignotent le temps de travail et que de fait aujourd'hui vous pouvez travailler beaucoup plus que 35 heures, et d'ailleurs la moyenne reconnue par les organismes divers, que ce soit l'INSEE, que ce soit la DARES qui relève du ministère de l'Intérieur, revient à dire qu'aujourd'hui on travaille en moyenne 41 heures en France, donc on est bien loin des 35 heures. Donc voilà un peu l'aspect général au niveau de tout ce qui a été fait depuis 2002. Donc, faut bien avouer, une offensive assez bien menée hein, de la part du MNEF et reprise évidemment par le gouvernement. Et quand le gouvernement n'ose pas être à l'offensive de lui-même, ce qu'il fait, c'est qu'il passe par des députés UMP, que nous on appelle les députés MEDEF, hein, dans la Muguette s'en rappelle, Fourgousse, Tian et d'autres, donc qui font des amendements en séance, bon, et qui permettent d'imposer comme ça la casse du Code du travail. Et dans ce cas-là, le gouvernement s'en remet à la sagesse de l'hémicycle. Donc vous vous rendez compte de ce que peut donner la sagesse d'un hémicycle où l'UMP est très largement majoritaire. Bon, bien évidemment, ça se termine toujours pareil. Alors, du côté des femmes, ce qu'on peut dire, nous avons donc il y a eu 6 lois sur l'égalité salariale des femmes, hein, depuis la première étant de 72. Et c'est la loi de 72 qui a introduit la notion de un travail égal, salaire égal dans le Code du travail. Donc, mais au total 6 lois. La loi Roudy 83 qui prévoit que dans les entreprises de plus de 50 salariés doit être publiée chaque année une comparaison entre la situation salariale des hommes et des femmes. La loi Génisson de 2001 qui rend obligatoire les négociations annuelles. Une directive européenne 2002 sur le principe d'égalité de traitement. Et la loi du 23 mars 2006 qui s'appelait, parce qu'il y a la poésie des noms de loi, hein, ça s'appelait pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et donc qui proclamait, donc 2006, la volonté d'aboutir à la suppression des écarts de rémunération dans les 5 ans par prise en compte obligatoire de cet objectif dans les négociations ouvertes au niveau des branches ou des entreprises. Concrètement, bon ça, comme vous voyez, 2006, dans les 5 ans, donc en mars 2011, il ne devrait plus y avoir d'écart salarial entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Alors qu'on sait que les écarts globaux, salaire net moyen, c'est 25% de moins pour les femmes. Et si on regarde à compétences, formation, âge, ancienneté équivalent, on est encore à 5 ou 7%, uniquement sur le salaire de base. Quand on prend les compléments de rémunération, juste des exemples dont on parle peu, si on prend par exemple la participation et l'actionnariat salarié, il faut savoir que 60% des salariés du privé n'y ont pas accès, et que dans ces 60%, bien évidemment, ce sont les secteurs où travaillent massivement les femmes, puisque la participation et l'actionnariat salarié sont dans les grandes entreprises. Donc tout ce qui est ménage, tout ce qui est service à la personne, bon, tout ce qui est une grande partie du commerce, tout ce qui est l'hôtellerie quand on n'est pas dans les grands hôtels et ainsi de suite, il n'y a donc pas de participation. Et dans ce cas-là, on se rend compte que 10%, donc 60% des salariés privés n'en profitent pas. Et dans, ceux, dans les 40% qui restent, qui en profitent, 10% des bénéficiaires reçoivent 40% des sommes. Si on prend les stocks options, 85% des stocks options distribués vont aux hommes. Et donc vous voyez que même dans les hautes sphères de ceux qui gagnent le plus, il y a encore beaucoup d'inégalités. Alors, je m'excuse, je vais quand même prendre juste une minute sur la loi de 2006. S'il a quand même été introduit un aspect positif qui était l'obligation au retour des congés de maternité de remettre à niveau les rémunérations des femmes. C'est une grande avancée, on s'est battu, hein, c'est notre groupe qui s'est battu à l'époque sur ces amendements. Simplement, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à obtenir une précision sur ce qu'était la rémunération. Donc il faut se battre pour obtenir que ça inclut les primes. À l'époque, ils avaient refusé. Et la majoration des allocations formation pour les femmes devant engager des frais de garde d'enfants lorsqu'elles reprennent des formations, notamment dans le cadre du DIF. Sur la loi, pour terminer, donc la loi sur les retraites a introduit un amendement pour instaurer des sanctions puisque la loi de 2006 n'avait pas été appliquée. Ces sanctions portent sur 1% de la masse salariale à partir du 1er janvier 2012, si les entreprises n'ont pas mis en place un plan d'action pour l'égalité. Simplement, c'est une obligation de plan d'action, c'est pas une obligation de résultat. Et donc, ils ont d'une part introduit ça, mais en même temps, ils ont supprimé l'échéance qui était dans la loi de 2006 qui disait qu'il devait y avoir la suppression des écarts à 5 ans. Donc ça, cette obligation a disparu. L'obligation de plan d'action ne veut rien dire. Bon, et donc, en fait, pour conclure, je dirais que si on veut avancer sur la question de l'égalité salariale, la seule solution, c'est de passer de l'obligation de moyens à l'obligation de résultat. C'est-à-dire que la sanction financière ne porte pas sur l'obligation d'avoir un plan, mais sur le fait que les écarts n'aient pas été réduit, parce que si, enfin, est supprimé, parce que s'il n'y a pas cette sanction, je veux dire, on continuera, on peut faire 7e, 8e, 9e, 10e loi. Donc en fait, la seule loi à défendre, la seule disposition à défendre, c'est que la sanction porte sur le non-résultat de la réduction de l'égalité salariale. C'est la proposition de loi que j'avais déposée donc avec l'ensemble des députés du groupe GDR à l'Assemblée, enfin de la partie front de gauche du groupe GDR à l'Assemblée, donc pour supprimer ces écarts, pour qu'enfin on arrive à la suppression de différence de salaire.
Tu n'es pas de celles qui meurent ou elles s'attachent. Tu frottes ta joue à toutes les moustaches. Faut se lever de bon matin pour voir un ingénu qui ne t'est pas connu. Entre tes grands écarts te seront pardonnés, car les filles, quand ça dit je t'aime, c'est comme un second baptême. Ça leur donne un cœur tout neuf, comme au sortir de son œuf.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Ce soir, nous parlons des femmes précaires. Je vous propose d'écouter maintenant Odile Merkling, d'Assez, de Stop Précarité et du collectif pour les droits des femmes, qui va nous parler des conditions de travail des femmes immigrées.
Moi, je fais partie du collectif national pour les droits des femmes, mais je suis également dans le réseau Stop Précarité. Et donc, je vais vous parler de ce qui se passe depuis une dizaine d'années au niveau des luttes de la précarité. Bon, elles se sont développées énormément et encore plus dans certains secteurs où travaillent une majorité de femmes, nettoyage, grande distribution, centre d'appel, par exemple. Donc plusieurs d'entre nous, soit du CNDF, soit des associations de chômeurs et précaires, nous sommes efforcés de développer un soutien à ces luttes. Et en plus, entre 2006 et 2010, nous avons participé aux activités d'un collectif qui s'appelait Collectif pour des droits nouveaux, qui a élaboré une plateforme de revendication. Donc je vais essayer de vous tirer un petit bilan de tout ça et de vous exposer les propositions que cela nous suggère. Et Evelyne Perrin, d'Assez et Stop Précarité, et Noria Bencha, de l'association des cafards de Montreuil, et Catherine Cantier du CNDF et d'Assez vont compléter cette présentation en parlant des problèmes de l'indemnisation du chômage et du RSA. Donc, les femmes sont particulièrement pénalisées sur le plan de leur carrière du fait de la précarité et des discontinuités sur le plan de leur emploi. Du fait de toutes les mesures de déréglementation de l'emploi et de démantèlement du droit du travail, le travail informel et dissimulé, qui était traditionnellement depuis toujours le lot des femmes, a repris sa croissance depuis le milieu des années 80. Ce sont des données de la Commission européenne qui l'indiquent. L'émiettement des emplois, le recours à la sous-traitance en cascade, aux contrats à durée déterminée et à temps partiel, tout cela va actuellement bien au-delà de tout ce qui est autorisé par les législations. Et pour cette raison, il est indispensable de pousser les organisations syndicales à réagir contre de telles pratiques et à essayer aussi de syndiquer les femmes dans ces secteurs-là. Parce que je dois vous dire que sur le plan concret, il y a on peut être d'accord pour dire qu'il faut des emplois en CDI, à temps plein, etc. Mais sur le plan concret, il y a énormément de problèmes parce qu'il y a aujourd'hui un éclatement des collectifs de travail et parce qu'on n'arrive plus à syndiquer les gens dans ces domaines-là. Et comme il n'y a pas de représentation syndicale, il n'y a pas non plus de respect du droit du travail. Dans le nettoyage, il y a eu en octobre-novembre une grève de plus d'un mois de femmes de chambre dans un nouveau hôtel. Bon, elles devaient venir aujourd'hui, je ne les ai pas vues. Donc, ce nouveau hôtel, les femmes y travaillent dans le cadre d'une société de sous-traitance et elles sont payées à la tâche. Elles travaillent en réalité à temps complet et sinon plus. Mais une partie des heures qu'elles font, et même une bonne partie, ne sont ni déclarées ni rémunérées. En effet, pour calculer leur salaire, l'employeur divise le nombre de chambres qu'elles ont nettoyées chaque mois par une cadence théorique qui est indiquée dans leur contrat. Et là, il obtient un nombre d'heures fictif qu'il accepte de rémunérer. Donc, il faudrait déjà, avant toute chose, que les heures de travail que font réellement ces femmes soient rémunérées. Donc on peut rappeler que le groupe, par exemple, le groupe hôtelier Accor avait accepté en 2004, suite au conflit des femmes de la société Arcade, de signer une charte dans laquelle il s'engageait à rapprocher les conditions de travail des salariés de la sous-traitance avec celles du donneur d'ordre. Cela n'a pas été fait. Donc les luttes sur le thème de la précarité conduisent aujourd'hui à mettre en avant la revendication d'une requalification des contrats, Que ce soit ceux de salariés de la sous-traitance, par exemple requalification dans le cadre du donneur d'ordre principal ou du moins d'application de la convention collective et des accords collectifs du donneur d'ordre, ou que ce soit ceux des salariés qui ont accumulé des CDD pendant plusieurs années dans un secteur alors qu'elles devraient être depuis longtemps en CDI. Donc voilà. Et il faut également souligner que les fréquents changements d'employeurs dans ces secteurs font obstacle à toute progression de salaire en fonction de l'ancienneté. Dans les services à la personne, les salariés sont souvent embauchés directement par les particuliers qui n'ont pas les moyens de les rémunérer correctement. Bon, parfois ils les ont, mais ils ne les rémunèrent pas correctement non plus. Là encore, ces modalités favorisent le travail informel non déclaré en dépit des nombreuses mesures d'exonération fiscale. Donc le débat sur l'économie sociale et solidaire est venu depuis une quinzaine d'années se substituer à celui sur le travail informel du fait de l'intervention de nombreuses associations dans ce secteur. Mais cela n'empêche pas que la dégradation des conditions de travail se poursuit. Ces associations ont de plus en plus de difficultés. Elles se retrouvent mises en concurrence avec des sociétés privées et ne peuvent plus obtenir de subventions à l'heure actuelle. Donc, ce que nous demandons, c'est bien entendu un véritable service public de petite enfance et de prise en charge de la dépendance. Mais c'est aussi la possibilité pour les femmes qui exercent déjà dans ces domaines depuis longtemps d'accéder à une formation, à une professionnalisation de leur travail et à la reconnaissance de leurs compétences. Et ce sont aussi des mesures concrètes pour décloisonner les différents segments d'emploi, public, parapublic, associatif ou en gré à gré chez des particuliers. Voilà. Le travail à temps partiel. Alors, la moitié des femmes travaillent à temps partiel dans la distribution et ce temps partiel est imposé à la moitié d'entre elles. Plusieurs conflits ont eu lieu dans les années 2000 à la FNAC, chez Carrefour, à nouveau Carrefour en 2008 et en 2011, chez Monoprix en 2010. Alors je rappelle que les femmes de Monoprix à Marseille avaient obtenu pour certaines de passer à temps complet et d'autre part pour certaines de passer de 26 heures de leur contrat de 26 heures à 30 heures. Donc, les mouvements de 2008 ont conduit à la signature d'un accord national de branche qui prévoit un horaire minimum de 28 heures dans les contrats de travail pour les salariés nouvellement embauchés. Bon, le problème, c'est qu'il y a actuellement très peu d'embauches et qu'il faudrait aussi que les anciennes salariées puissent bénéficier d'une revalorisation de leur contrat sans avoir à se plier à de nombreuses contraintes de polyvalence, de modulation des horaires et voire d'augmentation de leur charge de travail. Alors, par ailleurs, il faut dire que les conditions de travail des salariés à temps partiel sont souvent totalement insupportables et d'autant plus que leur travail est concentré sur les horaires, les plages horaires où il y a un maximum d'affluence dans les magasins, par exemple. Et donc, une des premières revendications, c'est la diminution des cadences qui sont souvent intenables et le changement des méthodes de management. Et donc, eh bien, il faut dire que les femmes refusent un passage à temps complet lorsqu'il ne peut se faire pour elles, pour quelques-unes d'entre elles, qu'à la condition d'une augmentation de leur charge de travail. Il faut absolument obtenir que les collectifs de travail qui sont en lutte, qu'ils arrivent à rester unis et que on refuse notamment l'augmentation de la charge de travail en échange du passage à temps complet. Bon, je dis ça parce que, par exemple, dans la grève de Novotel récemment, on leur a dit « vous pouvez toutes passer à temps complet ». Mais le problème, c'est qu'elles y étaient déjà à temps complet et qu'on ne leur payait pas leurs heures. Et l'autre problème, c'est qu'il y en a quatre qui ont dit « bon, nous, on veut bien avoir un contrat à temps complet, seulement celle-là, on leur a demandé de faire 19 chambres par jour. Hein, » c'est-à-dire, en gros, 4-5 chambres de plus que les autres. Bon. Alors, voilà. Donc, conclusion, pas de contrat de courte durée et surtout pas de contrat qui ne donne pas de couverture sociale, donc moins de 20 heures. Augmentation du volume horaire des contrats pour les femmes qui le demandent et sans augmentation de charge de travail et plafonnement de la part des salariés à temps partiel dans une entreprise. Bon, en conclusion, je vais laisser la parole à Evelyne Perrin parce que compte tenu de l'ampleur du temps partiel, mais aussi compte tenu de l'ampleur des licenciements et du chômage, une dernière revendication nous apparaît essentielle. C'est celle d'une compensation de toute perte de revenus, quelle que soit la situation des personnes en âge adulte, hommes ou femmes. Car le turnover, les licenciements, le chantage à l'emploi sont les instruments décisifs aujourd'hui entre les mains du patronat qui lui permettent de faire obstacle aux revendications des salariés. Donc là-dessus, Evelyne va en parler, nous avons élaboré une plateforme, celle du collectif pour des droits nouveaux, pour dire que les chômeurs, les salariés à temps partiel ou en formation doivent bénéficier d'un revenu garanti d'un montant défini en référence au SMIC mensuel et assorti de cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Maman, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle met de soleil, elle pose pas pour des magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Est-il normal que les hommes continuent à exercer leur domination sur les femmes? Est-il normal que la parité ne soit pas visible dans les actes et dans les faits? Je vous propose donc d'écouter Evelyne Perrin de Stop Précarité d'AC et du collectif des droits des femmes nous en parler.
Je prends le relais pour vous dire qu'effectivement, le collectif national des droits des femmes participe depuis 2005 à quelque chose qu'on avait essayé de faire pour unifier un petit peu les luttes des différents secteurs de précaires. Entre les chômeurs, puisque moi à cette époque-là avec Catherine, j'étais à Agir Ensemble contre le chômage, j'y suis toujours. Agir Ensemble contre le chômage, c'était une association qui réunissait des syndicalistes et des chômeurs, à la différence des associations purement de chômeurs, créées en 94, avec une grande marche en 94. Donc à cette époque-là, les associations de chômeurs s'étaient créées dans ces années-là. Il y avait l'APES, il y avait AC, il y avait le MNCP, le Mouvement National du Chômage Précaire, et la CGT avait aussi créé la CGT Chômeurs. Mais la précarité se développait, le chômage s'intensifiait, on assistait à un chômage de masse et à une sorte de généralisation pour les nouvelles générations d'une entrée sur le marché du travail caractérisée justement par ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est à 80% d'embauches hors CDI, comme on nous l'a dit. On voyait monter ça. Donc on a créé le réseau Stop Précarité en 2001, quand il y a eu les grandes grèves à McDo, Pizza Hut. Ce réseau existe toujours, il s'est pendant quelques années borné à faire des cours de droit du travail, mais c'est pas inutile les cours de droit du travail, parce que déjà il faut connaître ses droits. Je vous ai fait passer le programme de cette année. Ces cours continuent, ils sont gratuits, ouverts à tous tous les premiers lundis du mois à la Bourse du Travail République à Paris. Et maintenant ils s'en créent dans des villes en province comme Montpellier, Bordeaux. Parce que le plus important, c'est déjà de connaître ses droits pour se battre. Ensuite, il faut pouvoir se battre ensemble. Donc, le projet du réseau Stop Précarité, c'était de soutenir les luttes des précaires. Donc, on a toujours soutenu les luttes des précaires. On n'était pas les seuls à le faire. Il y avait, pour McDo, il y avait un grand collectif de soutien. Pour Arcade aussi, on a soutenu ces femmes de ménage. Et on s'aperçoit qu'entre les femmes ménages qui se sont battues pendant un an de grève, hein, des femmes africaines pendant un an de grève, faut le faire, pour faire reconnaître tout simplement leurs heures de travail et diminuer les cadences de nettoyage des chambres d'hôtel à Accor en 2002, on s'aperçoit que dans le nouveau hôtel des Halles aujourd'hui, ça n'a pas évolué. C'est toujours la même situation terrible, à la fois de vol, d'escroquerie, parce qu'on leur paye pas toutes leurs heures, on leur demande des cadences abominables, et voilà, ça rend vraiment très en colère de voir que ça fait des années qu'on se bat et que la situation ne s'améliore pas, elle se dégraderait plutôt. Alors, le but du réseau Stop Précarité, c'est de se battre, effectivement, par tous les moyens, en soutenant les luttes des précaires, on n'est pas les seuls à le faire. Et en 2005, on a donc créé ce collectif droit nouveau entre les associations de chômeurs, le réseau Stop Précarité, le collectif national droit des femmes, avec aussi, ce qui était très intéressant, l'Union syndicale solidaire. Après, le SNU Pôle emploi est venu nous rejoindre. Ensuite, l'Appel et la Pioche sont venus nous rejoindre. Les jeunes qui se battaient aussi contre l'emploi précaire, avec notamment le NPA à l'époque. Maintenant, certains sont encore au NPA, d'autres sont passés au PG, peu importe, à la limite. Hein, l'essentiel, c'est de se battre, quelle que soit l'organisation, en fait. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Et de se battre surtout de façon unitaire. Et donc, on avait créé ce collectif pour essayer de travailler ensemble. Il y avait aussi Copernic, qui en faisait partie, et le DAL un petit peu, le mouvement des jeunes pour la justice sociale, le mouvement des quartiers pour la justice sociale aussi. Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a été rencontrer les syndicats comme la CGT et aussi, curieusement, la CFTC et Solidaire qui se battaient pour une sécurité sociale professionnelle parce qu'on se demandait en quoi ça pouvait concerner des chômeurs. Et on s'est aperçu que c'était pas suffisant parce que c'était plutôt destiné à des salariés qui étaient licenciés. Or, on voyait bien cette nouvelle génération de jeunes qui n'arrivent pas à se stabiliser, à qui on n'offre plus d'emploi stable. On leur offre un CDD de 2 semaines, un intérim de 8 jours. Après, ils sont au chômage. Les frontières sont abolies. On ne sait plus si on est chômeur précaire, etc. Parce qu'on passe de l'un à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Les collectifs de travail sont démolis. Donc, on a travaillé ensemble pour élaborer cette plateforme qui a été signée par une quinzaine d'organisations en 2006. Hein, cette plateforme, j'en ai fait passer quelques exemplaires tout à l'heure quand on avait commencé à s'installer dans l'autre salle, où on demandait, comme le disait Odile, c'est très important, ce que disaient déjà les associations de chômeurs, un revenu pour tous, avec ou sans emploi. Mais attention, pas un revenu minimum, hein, parce que là, il y a beaucoup de confusion. Je sais que j'ai des amis qui sont à Europe Écologie, moi j'ai été chez les Verts, bon, j'y suis plus, mais bon. J'ai des amis là-dedans qui malheureusement préconisent ce qu'ils appellent le revenu d'existence, sans dire exactement quel serait le niveau. Attention, le revenu d'existence, même le patronat est pour, ça fait des salaires à verser en moins. Nous, on veut un revenu décent, correct. Alors, on était divisés entre nous parce que, il y avait aussi les intermittents avec nous, hein, qui avaient fait une grande lutte en 2003-2004, où ils avaient proposé un nouveau modèle d'indemnisation pour tous, pour tous les précaires, très intéressant, soutenu par des sénateurs, des députés, qui malheureusement n'a pas vu le jour. Et le régime des intermittents s'est beaucoup dégradé, le régime des chômeurs s'est beaucoup dégradé. Il y a eu la fusion ANPE-ACEDIC qui fait que maintenant on travaille ensemble, nous, associations de chômeurs et de précaires, avec les salariés et syndicalistes de Pôle emploi qui protestent contre ce qu'on leur fait faire. C'est plus de l'accompagnement des chômeurs, c'est de la police emploi, c'est de la chasse aux chômeurs, quoi, pour les radier au maximum. 500 000 radiations quand même, hein, cette année. Donc les chômeurs sont de plus en plus traités comme effectivement des délinquants, des assistés, des gens qui fraudent. On les indemnise de moins en moins bien, on les radie de plus en plus. Mais on est tous concernés parce qu'on peut tous passer un jour au chômage. Plus personne n'est protégé, étant donné que dans le secteur public, la loi mobilité fait qu'on peut très bien ne plus être fonctionnaire si on n'arrive pas à se recaser dans les 3 ans. Et dans le secteur privé, vous voyez la cascade, délocalisation, licenciement, tout ça. Donc plus personne n'est à l'abri. C'est pour ça que nous, on pense qu'avec ou sans emploi, on doit avoir un revenu, bah, c'est au patron de le payer. Alors on était un peu divisés entre nous. Par exemple, les intermittents voulaient que ce soit payé par l'impôt. Bon, étant donné que l'impôt, on constate que c'est les classes moyennes qui le payent, même les plus basses, les classes moyennes au niveau revenu, que les grandes entreprises payent très peu d'impôts, en fait. Si vous prenez les entreprises du CAC 40, payent 10% d'impôts. Donc nous, on est plutôt pour que ce soit les patrons qui payent par la cotisation sociale. Mais comme on n'était pas tous d'accord, notre plateforme était un peu floue, et la majorité d'entre nous voulait que le revenu décent, ça soit le SMIC, mais le MNCP était pour 80%. Donc voilà. Mais en gros, c'était l'idée que il fallait que tout le monde ait un revenu payé de préférence quand même par les patrons, parce que pour le moment, bon, on pense qu'ils s'en tirent pas trop mal, quoi. Et sauf les plus petits, bien sûr. Et sauf les agriculteurs aussi, bon. Et donc, pour les femmes, on avait bien pris soin de dire qu'on voulait qu'un travailleur à temps partiel imposé puisse passer à temps complet à sa demande et qu'il puisse avoir une compensation de la perte de salaire. Parce que bien souvent, le temps partiel n'est pas choisi. Bon, bien sûr, il y a une minorité de gens qui travaillent à temps partiel choisi, mais une grande majorité préférait travailler un peu plus quand même. Donc, on avait fait cette plateforme. Alors, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Eh bien, suite à cette plateforme, on a fait des états généraux dans cette même salle avec pas mal de monde. En mai 2009, il y avait 200 personnes, il y avait 30 organisations. Et on a vu qu'on n'arrivait pas à grand-chose. Donc on a lancé l'idée de marche de chômeurs à travers la France en novembre 2009, qui ont bien fonctionné. Après, en 2010, il y a eu des grèves de chômeurs. Comment des chômeurs peuvent faire grève? Ben, ils n'ont pas de boulot, d'accord, mais ils peuvent occuper leur pôle emploi pour faire régler des problèmes de trop perçus, de indus, de gens qui ne sont pas indemnisés. Et je dirais que ce qui est le plus important, c'est de créer des réseaux de lutte. En dehors du réseau Stop Précarité, je conclurai par là parce qu'on me dit qu'il faut conclure. Rien ne vaut la lutte, hein. Donc, tous les moyens sont bons. Il faut se mettre tous ensemble, passer par-dessus les divisions qu'on peut avoir les uns et les autres entre organisations. Je constate avec un peu de regret que les associations de chômeurs ont tendance depuis 1 an ou 2 à se replier sur elles, alors qu'il faut au contraire s'ouvrir et lutter avec tous les salariés. Donc on a créé un nouveau réseau en février, à mon initiative, on est parti à 15, maintenant on est 100. Ça s'appelle le réseau Stop Stress Management. Comme il y a de plus en plus dans les nouvelles méthodes de gestion qui sont déterminées systématiquement pour faciliter les suppressions d'effectifs, les restructurations et les délocalisations, on impose des méthodes de gestion qui démolissent les collectifs de travail, qui mettent chacun en concurrence, qui font penser que si on n'atteint pas des objectifs qui de toute façon sont inatteignables, c'est qu'on est coupable, c'est qu'on n'a pas bien fait son boulot, donc c'est la déprime, la porte, la démission ou le suicide. Il y en a quand même beaucoup des suicides. Hein. Et donc, on a décidé que ça suffisait de pleurer, parce que ça faisait quand même quelques années qu'on disait « Ah oui, la souffrance au travail, c'est pas bien, il faudrait que les entreprises soient plus gentilles. » Non, nous, c'est pas ça. On va pas être gentils du tout. On va attaquer, non, par tous les moyens, juridiques, médiatiques. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un guide pour SOS, premier secours, salarié harcelé. On est en train de faire un deuxième guide, le guide du parfait manager harceleur, pour montrer aux salariés les méthodes qui lui sont appliquées, que c'est pas lui qui est coupable, que c'est des méthodes systématisées. Et ensuite, on fait aussi un suivi de la jurisprudence et aussi on fait des ateliers de parole pour les salariés qui sont harcelés très mal, qui souffrent, qui sont au bord du suicide, avec des cliniciens. On va faire aussi des campagnes médiatiques. On en fait une en ce moment contre IBM. Bon, voilà. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que peu importe l'organisation, les organisations peuvent évoluer. Il faut travailler ensemble, se réunir. La France est marquée quand même par beaucoup de divisions dans le mouvement social. Je vois à quel point le mouvement des indignés n'est absolument pas soutenu. Ils sont quand même, depuis début novembre, en train de se faire harceler par la police dans le froid à la Défense. Je vois pas beaucoup de gens les soutenir. Bon, à Londres, j'en reviens, c'était pas comme ça. Ils étaient soutenus par les syndicalistes. Donc, travaillons ensemble.
Il paraîtrait, mais il faut prendre l'information avec des pincettes, il paraîtrait que le RMAST sont des fraudeurs. Pas les élus. Les élus ne sont pas des fraudeurs. Ni les banques. Les banques ne sont pas des fraudeuses. Seuls les pauvres fraudent. Il faut donc les surveiller, les mettre en fiche, les contrôler. Je vous propose d'entendre sur ce sujet Noria Bencha de l'association Les Cafards de Montreuil.
Bon, donc moi je m'appelle Noria Bencha, j'habite à Montreuil. Et donc, je suis RSAS moi-même, en intermittence avec le chômage et avec plusieurs casquettes, puisque je fais les permanences juridiques à Solidaire 93. Je participe également à un collectif de chômeurs précaires qui s'appelle les CAFARS à Montreuil. Et donc, je parlerai plus de la question du collectif des CAFARS de Montreuil. Donc on est sur toutes les discussions qu'il y a eu depuis le début, on est peut-être un peu atypique, on est dans un discours ou des actions en tout cas un peu parallèles sur la question du travail, où on estime que justement pour les RSAS, pour les précaires, la seule solution n'est pas forcément uniquement le travail. On pense que le travail ne peut pas être fait à n'importe quel prix, et je le constate effectivement aux permanences juridiques où toutes ces femmes qui arrivent, qui sont à la fois dans des grandes souffrances, des problématiques physiques, des problématiques familiales avec les enfants, etc. Donc le travail pour ces femmes-là, elles sont elles sont dans ces obligations et franchement, elles payent cher le fait de garder son loyer, de nourrir les enfants, etc. Donc du coup, j'ai fait un petit peu, tout le monde est au courant du RSA socle, du RSA chapeau. Donc le RSA socle, c'est le RSA net, sec, où les gens ne travaillent pas. Donc on se retrouve sans emploi, non indemnisé par les ACEDIC. Et donc on fait une demande à la CAF pour pouvoir avoir le RSA. Et donc on a le RSA de base qui est un peu plus de 400 euros pour une personne seule. Et ça peut aller jusqu'à 700, 800 euros si on a 2-3 enfants. Plus les allocations logement si on a un logement. Donc voilà, avec une obligation de déclaration trimestrielle pour savoir si on a travaillé, pas travaillé, etc. Donc voilà, en gros, le système RSA vraiment très très simplifié. Et donc, du coup, donc nous, on s'aperçoit en ayant fait des permanences autour de du RSA et parfois de Pôle emploi où on intervient en faisant des occupations pour débloquer des droits, que les femmes, mères isolées, enfin avant il y avait le RMI et l'API, donc allocation de parents isolés, et depuis le RSA qui englobe cet ensemble-là, la caisse d'allocation familiale via le gouvernement décide que cette population-là sera davantage contrôlée. Parce que peut-être que les femmes, elles disent pas la vérité. En fait, il y a bien un homme qui habite à côté. Donc, ils vont faire des enquêtes, ce qu'on appelle le contrôle domiciliaire, ou les différents contrôles de la CAF. Et donc, ils vont contrôler si tu as un mec chez toi. Donc, ils vont demander au voisinage éventuellement s'ils n'ont pas vu des hommes rentrer dans ta maison, etc., etc. Donc il y a systématiquement il y a une espèce de suspicion que la femme avec des enfants qui perçoit des allocations participe à la fraude générale de la France et donc elle va mettre en place un certain nombre de contrôles. Donc il y a vraiment une cible, hein, je ne sais plus qui c'est plusieurs ministres l'ont abordé en disant, par exemple, les femmes isolées avec des enfants, il faut les contrôler un peu plus, parce que du coup, ils n'imaginent pas du tout que, par exemple, si tu couches avec un homme, tu te donnes pas forcément sa paye. Et que s'il y a un homme qui rentre chez toi, c'est pas forcément que voilà, il va te nourrir, etc. Mais la CAF, par exemple, elle n'imagine pas ça. Elle n'imagine pas que il y a quelque chose d'un peu indépendant, que les choses ont un peu évolué, que même parfois les hommes qui ont à charge des enfants ne donnent pas les pensions alimentaires, etc. Donc il y a quelque chose un peu autour de cette histoire d'indépendance questionnée ou remise en cause du fait d'être une femme avec des enfants. Donc il faut faire tout un espèce de tralala pour prouver que celui qui a laissé sa brosse à dents, c'est pas ton homme. Peut-être que tu couches de temps en temps, mais c'est tout. Il est pas la maison. Donc. Et du coup, ça questionne beaucoup sur l'intimité de la femme. Jusqu'où la CAF peut aller de la vie privée, de l'intimité de cette femme. Donc moi je pense que, enfin on pense qu'il y a quelque chose de l'assignation que l'institution assigne la femme à rester dans sa place de femme qui normalement devrait être avec un homme, et si elle n'est pas avec un homme qui lui donne de l'argent, du coup c'est un peu bizarre, c'est un peu pas normal. Pour aller vite. Alors du coup, oui, on n'est pas pour le travail. En réalité, le collectif des cafards est pas pour. Ça doit rester un choix. Et les femmes qui ont des enfants ou pas d'enfants d'ailleurs, comme les hommes, doivent avoir la possibilité de faire autre chose que de travailler. Donc ça paraît un peu bizarre, mais voilà. À Montreuil, par exemple, les expériences qu'on a, c'est des groupes qui s'organisent pour faire des langues, pour apprendre des langues, des langues, l'anglais, etc. Sans en avertir, bien sûr, les institutions, parce que si les institutions savent que ta journée, tu la passes à apprendre, à discuter avec des gens, à apprendre des choses, etc., ton RSA, donc il y a quelque chose qui n'est pas du tout reconnu dans le fait qu'on puisse à un moment donné se dire on peut prendre du temps pour discuter, pour apprendre à prendre la parole, pour apprendre, etc. Et ça, ce temps-là, il n'existe pas nulle part, y compris dans les institutions sociales qui reconnaissent pas du tout cette partie-là. Et je pense que les femmes, de manière générale, tout le monde, mais les femmes en particulier, sur les quartiers, il y aurait vraiment une richesse extraordinaire de pouvoir laisser ce temps-là aux personnes. Autrement, Donc voilà, je pensais que les femmes, par exemple, nous qu'on rencontre, donc elles cumulent de plusieurs handicaps, qui est femmes, enfants, pas forcément étrangères, parce que je pense que les femmes qui sont dans la précarité, c'est assez universel. Hein. Il n'y a pas de différence entre si tu es noir, arabe, français. Bon. Donc voilà. Autrement, je vous conseille notre guide par rapport au contrôle domiciliaire, où justement on explique un peu comment se préparer au contrôle domiciliaire, et particulièrement quand on est une femme avec des enfants et normalement toute seule. Donc on peut le trouver à la CIP, sur le site de la CIP, ou cafard de Montreuil, @riseup.net.
Nous les souris, les pin-up, les encas, nous qu'on appelle comme un Jésus sur son calvaire, t'as beau gueuler, ils te feront bien taire. Faut pas pleurer pour ces conneries, quand on est fille, c'est pour la vie.
Je ne voulais pas terminer cette émission sans vous souhaiter une excellente année 2012, en espérant qu'elle vous apporte à tous du travail, du bonheur, de l'amour et de l'argent. Mais je ne me fais aucune illusion, l'année 2012 sera aussi pourrie que les 10 dernières années, ainsi que les 10 années qui viendront. Allez, cette émission se termine. Je vous remercie mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Je fais un gros bisou aux filles et une grosse poignée de main aux garçons. Bonne année à tous. Salut.